Les paractualités. Bonjour à toutes et à tous, c'est Clotilde Seil qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure afin de vous présenter les paractualités de la radio Canal M, votre radio, la radio de Vues et Voix. Alors aujourd'hui en titre, Laval réduit les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Un neurologue dénonce le lobby de la maladie de Lyme chronique. Une entrevue avec Julien Racicot, fondateur et directeur de la fondation Adapte-toi qui s'apprête à faire une grande traversée. Il va nous raconter. Ça. Également à l'émission, la petite nation se mobilise pour un enfant. Et puis le parcours du combattant des personnes handicapées qui nous amènera presque tout naturellement vers une autre entrevue, cette fois-ci avec Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, autrement dit le RAPLIC. Aussi, un record du monde pour Brent Lakatoche, un athlète canadien. Et puis Shazam, souviens-toi, c'est une heureuse initiative qui nous vient du Royaume-Uni.
Je sais pas pourquoi.
Alors Laval réduit les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le cadre du plan d'action du Comité consultatif conjoint en accessibilité, le CCCA. La ville de Laval a déposé le bilan 2016 de ses réalisations à l'égard des personnes handicapées, peut-on lire dans l'écho de Laval ce matin. En 2016, la ville a veillé à la mise en œuvre de son plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Elle a réalisé plusieurs projets d'accessibilité de lieux et de bâtiments publics, dont les travaux suivant. Arena Saint-François, amélioration de l'accessibilité générale. Arena Heartland Monahan, amélioration de l'accessibilité des toilettes et des gradins. Arena Samson, amélioration de l'accessibilité des toilettes et des gradins également. Bibliothèque Émile Néligan, amélioration de l'accessibilité générale. Piscine Saint-Vincent, aménagement d'une pataugeoire et d'une aire de jeu d'eau accessible. Piscine Prévost, amélioration de l'accessibilité du chalet, toilettes et vestiaires et de la piscine. Trottoirs et bateaux pavés, travail en continu de réhabilitation des trottoirs et de construction de bateaux pavés pour faciliter la traversée des carrefours et l'accès aux arrêts d'autobus. Il est à noter que la ville concrétise d'autres types d'initiatives. Je vous rappelle qu'on est à Laval et qui vise la participation de tous à la vie active, comme la formation de groupes d'employés et personnels des camps de jour, policiers et enquêteurs, l'accessibilité de sites d'événements, la publication de textes divers pour promouvoir les ressources et les services pour les personnes handicapées et l'octroi d'un mandat pour une étude d'opportunité des déplacements piétonniers qui s'intéresse entre autres à l'université à l'accessibilité universelle. Alors, les personnes intéressées peuvent consulter le bilan 2016 du CCCA à simplement l'adresse suivante, laval.ca, sous la rubrique « Personnes handicapées ». Un neurologue dénonce le lobby de la maladie de Lyme chronique, écrit Elisabeth Fleury dans la presse. Le docteur Marc Girard est connu pour avoir notamment participé à la vaste étude clinique pancanadienne qui a conclu en mars dernier que la technique du docteur Paolo Zamboni ne permettait pas de traiter la sclérose en plaques. Dans le numéro de juin du magazine de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le neurologue signe un article intitulé « Un exemple de pseudo-science, la maladie de Lyme chronique ». C'est la multiplication des cas médiatisés de Québécois se rendant aux États-Unis pour obtenir un diagnostic et un traitement coûteux pour cette maladie qui l'a convaincu de remettre les pendules à l'heure, explique-t-il en entrevue au Soleil. Le docteur Girard ne nie pas l'existence de la maladie de Lyme, au contraire. Avec les changements climatiques et le bouleversement des écosystèmes, il est indéniable que le Québec et le Canada seront de plus en plus touchés par des bactéries de type Borrelia qui sont responsables de cette maladie, reconnaît le médecin. Selon lui, il est essentiel que le corps médical soit mieux informé sur cette maladie, surtout sur sa forme aiguë, qui se caractérise par des signes et des symptômes qui lui sont propres. Un simple traitement antibiotique permet un contrôle rapide de la maladie dans sa forme aiguë, rappelle-t-il. Le docteur Girard ne remet pas non plus en question les souffrances physiques des personnes qui revendiquent un diagnostic de maladie de Lyme chronique. Ce dont il doute, c'est du diagnostic lui-même en raison de la non-fiabilité scientifique des méthodes utilisées pour le confirmer. Ce qui l'inquiète, c'est l'augmentation du nombre de personnes atteintes d'autres conditions bien étayées, comme la sclérose en plaques, qui remettent en question leur diagnostic et leur traitement sur la foi de tests de dépistage de la maladie de Lyme qui sont faussement positifs. Si les tests et les traitements que demandent les personnes se disant atteintes de la maladie de Lyme ne sont pas offerts au Canada et au Québec, ce n'est pas parce que les médecins y sont incompétents ou mal formés, mais plutôt parce qu'ils offrent une médecine de qualité répondant à des critères scientifiques reconnus, a tranché le docteur Girard. Je me souviens très très bien quand nous avions parlé avec Julien Racicot assez récemment. Julien Racicot qui est le fondateur et le directeur de la fondation Adapte-toi. Aujourd'hui, il nous revient, il est là en ligne. Bonjour monsieur Racicot.
Oui, bonjour.
Oui, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Vous?
Ça va bien. Dites-moi, vous vous préparez à quelque chose d'assez... Oh, j'allais dire d'assez big, c'est pas bien, hein? D'assez gros.
D'assez audacieux, on pourrait dire.
Comment vous dites?
D'assez audacieux.
D'assez audacieux, voilà, exactement. Je trouve le mot beaucoup, beaucoup mieux choisi que l'adjectif, avec, en tout cas anglais, que j'avais moi-même choisi. Dites-moi, d'abord, rappelez-nous ce qu'est la mission de la Fondation Adapte-toi, et ensuite, nous parlerons de cette grande aventure que vous allez entreprendre au mois d'août.
La mission de la Fondation Adapte-toi, en fait, c'est de permettre aux personnes qui se retrouvent paralysées suite à une lésion de la moelle épinière d'avoir accès au budget nécessaire pour adapter leur domicile en fonction de leur handicap et également d'avoir accès à une enveloppe budgétaire supplémentaire pour pouvoir avoir accès à des soins, des services d'aide plutôt à domicile, mm-hmm. afin toujours de favoriser et maximiser l'autonomie.
Je rappelle, M. Racicot, que vous-même, hein, vous êtes en position, en bonne position pour nous en parler, hein, de ce drame-là. Vous êtes vous-même, je pense, paralysé des épaules aux orteils suite à une lésion de la moelle épinière, c'est bien
Exactement,
ça?
Exactement, oui. Suite à un grave accident d'auto que j'ai eu en 1999.
D'accord.
Oui.
Alors, cette grande aventure que vous allez entreprendre au mois d'août, parce que comme vous nous le disiez, ça prend de l'argent. Et c'est un peu et beaucoup pour cela que vous allez entreprendre cette traversée. Alors, quelle traversée? Quels sont ces objectifs et de quoi s'agit-il?
En fait, la traversée va être de Gaspé à Montréal en fauteuil roulant. Une traversée d'un peu plus de 1200 km qui va s'échelonner sur environ 25 jours. Je dis environ parce que, bon, il risque d'avoir des imprévus, peut-être qu'avec les intempéries, on va être obligé de retarder certains départs. Mm-hmm. Donc, ça va peut-être s'échelonner plutôt sur 30 jours que sur 25.
Incroyable.
Et tout ça va se faire... je vais parcourir environ 40 à 70 km par jour. Et l'objectif de cette traversée-là, je vous dirais qu'il y a deux objectifs principaux qui sont, d'un côté, de sensibiliser la population, sensibiliser les gens à la cause de la lésion médulaire et de la réalité qui est vécue par ces gens-là, qui se retrouvent à avoir leur vie en entier, celle de leurs proches, qui est complètement chamboulée drastiquement du jour au lendemain.
Oui.
Et de l'autre côté, évidemment, comme vous l'avez mentionné, c'est d'amasser des fonds,
oui.
un maximum de fonds, pour aider un maximum de gens, soit pour adapter leur domicile, bonifier l'adaptation de leur domicile qui est déjà existante afin de maximiser leur autonomie et également leur offrir une enveloppe budgétaire pour avoir du personnel à domicile, toujours dans l'objectif d'améliorer leur autonomie et leur quotidien.
Monsieur Racicot, on l'a dit tantôt, c'est un défi audacieux. Est-ce que physiquement, ça n'est pas même un peu trop vous demander?
Je croirais pas que c'est
non.
trop me demander. C'est sûr que ça va être quelque chose qui va être exigeant.
Mm-hmm.
En même temps, j'ai du personnel qui va être avec moi durant toute la traversée.
Bon, c'est ça, vous allez avoir de la famille. Oui.
J'ai des préposés également.
Oui, d'accord.
J'ai toute une équipe de bénévoles aussi qui va joindre à moi pour faire la traversée.
Mm.
C'est moi qui vais faire la traversée, mais c'est également toute une belle équipe de supporters, de bénévoles et de personnel qui va faire que ça va être une réussite.
Ça va être une réussite totale. J'imagine que vous passez quoi par les grandes routes? J'ai du mal à imaginer. Quelle route est-ce que vous allez prendre entre Gaspé et... Est-ce que vous allez prendre la route du fleuve?
En général, on va être beaucoup sur la route 132.
OK, c'est ça. OK.
Et évidemment, pour ça, bon, on doit avoir... on est en train de finaliser les démarches, mais on va avoir... On doit avoir l'autorisation des 119 municipalités que je vais traverser. Sous peu, on va avoir le permis du ministère des Transports. Également, selon certains tronçons, on va être escorté par des corps policiers.
Oui.
Sinon, aussi, on a toujours l'escorte, là, le véhicule d'escorte qui est le motorisé, qui va être peint aux couleurs de la traversée, le courage d'avancer.
Quelle couleur?
Toujours aux couleurs du logo de la fondation. Donc, le vert qui représente l'espoir, le jaune également, et c'est ça, avec le nom de la traversée, le courage d'avancer.
D'accord.
Et dans le fond, qui fait référence à deux choses, le courage d'avancer, le courage que ça va prendre pour faire la traversée, mais surtout le courage que ça prend aux gens qui se retrouvent paralysés suite à une lésion médulaire, d'avancer dans leur nouvelle trajectoire de vie. Le courage que ça prend de redéfinir en entier leur vie et de trouver des nouveaux intérêts pour vivre heureux et accompli malgré tout.
Ce que vous-même, vous parvenez à faire, M. Racicot?
Ah, très certainement.
Très certainement. Et puis, évidemment, je voudrais insister là-dessus tout au long du parcours, hein, les gens seront invités à se joindre à vous pour faire une distance avec vous, d'ailleurs, hein, pour ramasser des fonds.
Tout à fait. Les gens sont invités à joindre à moi pour parcourir une distance, mm-hmm. une distance de leur choix. Et évidemment, ce sont les gens qui veulent également contribuer à la cause, soutenir la belle cause de la Fondation, sont invités à faire des dons sur la plateforme web sécurisée. Pour lequel on émet des reçus pour fin d'impôt.
D'accord. Alors, cette plateforme, rappelons son nom, s'il vous plaît.
L'adresse web est le www.fondationadaptetoi.toit.
D'accord.
.org.
Simplement ça. Fondationadaptetoi.toit.org. Monsieur Racicot, toute l'équipe de Canal M est derrière vous, évidemment, pour cette aventure-là. Et ça nous fera plaisir peut-être lorsque vous serez à la veille du départ, ce serait chouette, ou en tout cas qu'on puisse se reparler, savoir comment vous allez, comment vous vous sentez.
Certainement.
D'accord, Monsieur Racicot. Enfin, en attendant, bonne préparation. On rappelle que vous allez partir quand? Le 15 août prochain, c'est ça?
Le 15 août de Gaspé, oui.
D'accord. Alors, on se reparlera d'ici là.
Les gens vont pouvoir nous suivre là, via les réseaux sociaux. Toute l'information va être
diffusée
là, très, très régulièrement.
D'accord. Et entre autres par Canal M. Merci beaucoup, Monsieur Racicot. Bonne journée.
Bon, merci.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
La petite nation se mobilise, écrit Benoît Sabourin dans la presse.ca. Il y a un an, jour pour jour, Cynthia McCart et Guillaume Duhamel étaient dans les derniers préparatifs avant l'arrivée de leur poupon. Le couple de Ripon était sur le point de vivre le plus beau jour de sa vie. Rien ne laissait présager que le petit Jack, qui allait naître le 23 juin 2016, allait devoir vivre avec une condition bien particulière à laquelle la médecine moderne a très peu de réponses. Le garçon de Cynthia et Guillaume souffre de l'ictiose congénitale, mieux connue sous le nom de la maladie du bébé harlequin. À sa naissance, Jack présentait une peau aux allures de lézard et n'avait pas de paupières. Pour que l'enfant ait cette maladie, il faut que les deux parents soient porteurs du gène. Pour rencontrer quelqu'un qui a le même gène que toi, tu as une chance sur 2 millions, lance la maman de Jack au bout du fil. Alors la peau de celui-ci se régénère sans cesse, ne lui offre aucune protection contre les bactéries et autres éléments extérieurs. L'état de santé de Jack nécessite une batterie de soins quotidiens. On doit lui donner régulièrement des bains pour exfolier son épiderme. Et puis, sans paupières, les yeux de Jack doivent aussi être hydratés fréquemment afin qu'il ne perde pas la vue. Semblable à de l'eczéma extrême, le syndrome lui provoque aussi des démangeaisons sans arrêt. La collègue et très bonne amie de Cynthia McCart, Brigitte Soucy, a lancé la semaine dernière une campagne de financement afin d'aider davantage la petite famille. Madame Soucy espère recueillir un montant d'à peu près 50 000 $ dans le but notamment de faire construire une annexe à la résidence des McCart du Hamel, ce qui permettrait à la maman de Jack, qui est massothérapeute et travailleuse autonome, de travailler à partir de son domicile afin de toujours avoir un œil sur le petit Jack. L'annexe servirait aussi de véranda protégée par des moustiquaires pour que le poupon puisse jouer à l'air extérieur sans tracas. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à aller sur le site de Canal M et d'aller dans sous la rubrique « Nouvelles ». Vous allez trouver le lien pour le petit Jack, parce que c'est un lien extrêmement long et compliqué à dire à la radio que vous n'aurez jamais le temps de pouvoir prendre en note. Sauf peut-être, remarquez, si vous faites une recherche « Jack, une belle peau », peut-être allez-vous le trouver, mais sinon je vous invite à vous brancher sur le site de Canal M. Dans ledevoir.com, Isabelle Porter, à Québec, nous parle du parcours du combattant des personnes handicapées. Malgré ce qu'on peut croire, écrit-elle, le Québec, et particulièrement la ville de Québec, est loin d'être un modèle en matière d'accès aux bâtiments pour les personnes handicapées. Année après année, de nouveaux commerces ouvrent leurs portes en toute légalité, même s'ils sont complètement inaccessibles à une partie importante de la population. Elle nous cite en exemple Sébastien Dion de la ville de Québec, qui visite sa microbrasserie préférée. Et quand il le fait, il doit avertir le personnel de sa venue. Il se rend ensuite dans la ruelle. Il attend qu'on lui ouvre la porte de service bariolée de graffiti et pour qu'il puisse enfin rentrer siroter sa bière comme tout le monde. Précisons que M. Sébastien Dion est âgé de 38 ans, qu'il est atteint de paralysie cérébrale, qu'il est parfaitement autonome, qu'il a son propre appartement et qu'il travaille depuis 12 ans au ministère de l'Éducation. Et puis, on nous dit que Montréal n'est pas en reste. Hein. La situation n'est pas différente. Dans Griffintown, on nous parle par exemple du café Starbucks du coin qui a prévu un bouton d'ouverture automatique pour la porte. Bravo! Impossible à atteindre pour une personne en fauteuil dans une entrée inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Chou! Voilà, alors ça c'est le top du top, j'ai rarement vu ça, c'est un André Leclerc, président de l'organisme qui roule. Alors il y a un flou dans la loi depuis 40 ans, parce que n'oublions pas qu'en 1976, le gouvernement s'est doté d'un premier code de construction tenant compte des personnes handicapées. Des normes se sont ensuite ajoutées depuis, mais les exceptions sont multiples, notamment pour les petits commerces. Alors la conséquence de tout cela, c'est que les personnes en fauteuil roulant fréquentent aujourd'hui davantage les grandes surfaces et les centres commerciaux et dépendent davantage du transport adapté. C'était un texte d'Isabelle Porter, je vous le disais, avec Isabelle Paré également, sorti dans la presse.ca, et ça nous amène tout naturellement à notre prochain entretien avec Linda Gauthier. Bonjour Linda.
Bonjour Clotilde, comment ça va?
Mais ça va bien, plus ça change, plus c'est pareil. Hein?
Oui, effectivement.
Alors, comme on le dit souvent, ça prend des gens comme Linda Gauthier du Rapplic pour actionner une sonnette d'alarme, comme vous l'avez fait, notamment contre la Société de transport de Montréal. Vous avez demandé l'autorisation de monter une action collective, hein? Mmh. Pour discrimination, et j'insiste sur le terme, pour oui. discrimination contre la Société de transport de Montréal, l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, et la Ville de Montréal, et un juge l'a autorisé.
Mais oui, elle a autorisé la juge Marianne Paquette.
Marianne Paquette, en plus.
Oui, oui.
Un homonyme. Mais c'est fou, hein,
Dieu. Écoutez, elle est vraiment... C'est génial, parce qu'on sent que c'est la première fois qu'on est entendu pour vrai, là.
Oui.
Et qu'on nous croit du côté du monde des hommes et des femmes et des hommes de loi.
Mmh. Oui, exactement. Alors, il faut rappeler que la demande avait été, je veux dire, le dépôt, ça avait été fait en avril 2015, c'est bien
voilà.
ça?
Oui.
Donc, ça aura pris un peu plus de 2 ans. Mais bon, finalement, c'est arrivé et l'annonce de cette autorisation, ça a été annoncé le 29 mai. Combien de personnes sont admissibles à ce recours collectif et quels étaient les critères d'admissibilité?
Bon, les critères d'admissibilité, je vais commencer par ça, étaient que la personne doit habiller vraiment le profil suivant. Qu'elle se déplace en fauteuil roulant manuel motorisé, évidemment, ça comprend les triporteurs, quadriporteurs, et soit déambulateur ou marchette à cadre. Ça,
oui.
C'est pour les personnes qui ont un handicap moteur. Et pour les personnes qui ont un handicap visuel, la canne blanche, évidemment.
D'accord.
C'est tout. Ça se limite à ça.
Ça se limite à ça.
Et pour le moment, oui.
Bon, et ça représente combien de personnes, alors?
Nous, on a visé 20 000 dans la province de Québec.
Si bien qu'on parle d'un recours, on ne parle pas de quelques dizaines de milliers de dollars. Là, on parle de combien en tout?
1,5 milliard.
1,5 milliard.
Oui.
Et vous, est-ce que vous pensez réellement qu'on pourrait y parvenir, que vous pourriez y parvenir?
On espère bien que non. Pour la simple et bonne raison que si on nous paye 1,5 milliard, c'est donc dire qu'on n'aura rien fait. Et nous, ce qui est important pour nous, ce sont les mesures, justement, de redressement, la mise en accessibilité.
Bien sûr.
Voilà, des trains aussi, des trains de banlieue, les gares, les stations de métro qu'on accélère, même si déjà on commence à faire un pas. Qu'il soit dit en passant, on a accéléré depuis le dépôt du recours collectif. Et voilà, c'est ça. Fait que, évidemment, ça amène une négociation, donc ça va baisser les montants d'argent.
Oui.
Il n'en restera peut-être plus du tout à la fin. Et tant qu'à moi, je vais vous dire que c'est bien tant mieux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est évidemment pas un coup d'argent. Et ça, on l'aura compris. Ce qu'on veut, c'est faire améliorer tous ces dossiers-là, quoi.
Tout à fait. Exactement.
Bon. Quelles sont les prochaines étapes, Linda Gauthier?
Bon, ben écoutez, là, c'était la cruciale, celle-là, peut-être la première et la plus importante, parce que ça fait en sorte que ça prenait celle-là pour aller plus loin. Ben, la prochaine, c'est sur le fond. Alors, c'est-à-dire que là, les experts seront appelés, les ingénieurs ferroviaires, à savoir qu'est-ce que ça coûte vraiment pour faire ça. La STM peut nous dire n'importe quoi quand ils nous disent, bon, ben ça représente une contrainte excessive, c'est très cher de faire tout ça. Oui, mais c'est très cher, c'est large, ça.
Qu'est-ce que
ça veut dire en chiffres? On n'a jamais vu les chiffres. Donc, il y a des experts qui seront appelés à la barre. Et écoutez, on en a encore, je ne veux pas décourager personne, mais ça va peut-être décourager ceux qui voulaient faire un coup d'argent avec ça. On en a encore, je dirais, pour un bon 6 à 7 ans.
6 à 7 ans?
Oui, madame.
Sauf que pendant ce temps-là, il faudrait que déjà, durant ces 6 à 7 années-là, ça bouge, quoi. Je veux dire, pour vous, ce serait déjà en dehors du procès en tant que tel, là?
Mais
ce serait...
Je suis bien contente que vous en parliez parce que, finalement, voyez-vous, étant donné que la ville de Montréal est aussi une intimée, on est dans une année électorale, n'est-ce pas?
Oui. Et le 375e?
C'est
en
ça.
Plus.
La meilleure des choses serait que, bon, ça serait le temps de s'asseoir à une table. Les avocats de ces trois intimés-là et les nôtres.
Oui.
Parce que c'est le temps de la négociation si on ne veut pas que ça coûte trop cher.
Oui. Mais oui. Exactement.
Alors, ça pourrait durer beaucoup moins longtemps que 6 à 7 ans.
Mais oui. Exactement. Parce que espérons que ce soit leur désir. Aussi, quoi, qui se disent pas, oh, on va laisser traîner ça, puis à un moment donné, bon. Ça, ce serait mal connaître une Linda Gauthier.
Très mal. D'ailleurs, on ne sait pas là, s'ils sont allés en appel. Hein. Il y avait 30 jours à partir du 26 mai pour aller en appel. Et voilà, je ne sais pas s'ils sont allés. C'est moins facile que ça l'était d'aller en appel maintenant.
Ah, bon, écoutez, alors on va continuer à se tenir au courant, Linda.
Mais bien sûr.
Vous aurez toujours micro ouvert ici, bien sûr, pour nous parler du développement de ce dossier-là.
Vous êtes très précieuse, Clotilde. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Linda. Linda Gauthier du Rapplique. Bonne journée, Linda.
Au revoir.
Au revoir. Parlons sport. Une fois n'est pas coutume, le Québécois Brent Lakatos a amélioré son record du monde du 100 mètres T53 à la compétition para-athlétique Daniela Jutzeler jeudi à Arbon en Suisse. À sa première compétition d'importance en 2017, l'athlète originaire de Dorval a mérité l'or en 14,15 secondes. Lakatos, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Rio, a retranché 0,2 seconde à la marque qu'il avait établie à Notwell, également en Suisse, en 2014. Lakatos, qui est âgé de 36 ans, a aussi signé des victoires aux 200 et 400 mètres T53. Les athlètes canadiens ont remporté 5 autres médailles jeudi. L'Ontarien Austin Smenk a mérité l'argent aux 200 mètres T34 et ajouté le bronze aux 100 mètres. Chez les dames, Yana Dupont de la Saskatchewan s'est classée 3e aux 100 mètres et aux 200 mètres T53. Jessica Frotten de Whitehorse a terminé tout juste devant Dupont, aux 200 mètres. À l'international maintenant, Shazam, souviens-toi. Ça, c'est une nouvelle, une info que Christiane Campagna a dénichée sur infopresse.com. Et si la technologie était capable d'oublier? Ça, c'est l'idée lancée par l'organisme de recherche sur l'Alzheimer du Royaume-Uni pour nous rappeler les malheureuses conséquences de la maladie. Alors, ce qu'ils ont fait, afin de bien démontrer les enjeux liés à l'Alzheimer, la filiale anglaise de l'agence InOcean Worldwide a employé l'application de reconnaissance musicale Shazam. Je ne sais pas si vous connaissez cette application-là. Vous savez, on fait écouter à Shazam une musique et Shazam est capable de vous donner le titre de cette musique-là si vous l'avez oublié. Vous savez, du genre, ah, comment ça s'appelle ça? Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant tout le mois d'avril, au Royaume-Uni, l'agence a littéralement fait perdre la mémoire à l'application, soudainement incapable de se souvenir du nom des chansons. En effet, lorsqu'un utilisateur recourait à Shazam, donc pour rechercher une musique, l'application, je viens de vous le dire, lui répondait qu'elle était à ce moment-là, plutôt que de lui donner le nom, elle lui disait « Je suis désolé, je suis incapable de m'en souvenir ». Et une fois que Shazam retrouvait la mémoire, il y avait un incitatif à l'action qui était envoyé à l'utilisateur afin de l'inviter à donner pour la cause de l'Alzheimer. L'opération a été lancée donc dans le but de conscientiser la population aux effets de l'Alzheimer qui affecte aussi les moins de 40 ans. Génial, non? Une invitation pour vous au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le mardi 20 juin à 13h, le Musée des Beaux-Arts de Montréal vous propose une visite de la collection Design et des Arts décoratifs. Pour la visite au Musée des Beaux-Arts, il faut s'inscrire en passant par le 514-285-2000. Ensuite, c'est le poste 3, donc 285-2000, poste 3. L'adresse, on vous la rappelle, 1380 Sherbrooke Ouest, c'est dans le hall principal. Et il y a un guide qui va vous y accueillir. D'ailleurs, parlant de guide, le service d'aide bénévole du RAM peut vous aider à vous trouver un accompagnateur. L'admission est gratuite au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cependant, des frais d'admission sont à prévoir au Musée Stuart. Non, ça, c'était autre chose et malheureusement, une autre visite qui avait lieu, mais c'était hier. Oubliez ce que je viens de vous dire. Mais par contre, pour le Musée des Beaux-Arts, c'est bien pour le 20 juin prochain. Si vous allez sur le site du RAM, R-A-A-M-M, vous allez tout savoir. Voilà, c'était vos Par Actualité sur les ondes de Canal M, animé pour vous par Clotilde Seille. Merci à toute mon équipe et à vous une excellente journée sous un ciel enfin bleu. Allez, à demain, 11h30.